Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette table ronde autour de la thématique de la flambée des prix des matières premières et des conséquences pour les entreprises. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Chalmin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes président fondateur de Cyclope. À côté de vous, Marie-Laure Tufal-Kidet. Bonjour. Vous êtes directrice des financements et des restructurations pour le groupe Autingre.
Philippe Autingre.
Et enfin, Arthur Westin. Vous êtes associé PwC France et Maghreb et vous êtes responsable des activités de cash flow et de working capital service. Alors, pourquoi l'inflation ? Au départ, je vous rappelle qu'il y a un an, l'inflation, c'était un phénomène transitoire qui était lié à la reprise économique. On était en pleine euphorie, l'activité se mettait en état de marche et donc les prix s'étaient mis à augmenter, mais il n'y avait pas d'inquiétude parce que c'était plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a eu la guerre en Ukraine qui est venue amplifier ce phénomène et qui est venue nous inquiéter, et en particulier les entreprises. Juste pour vous donner un chiffre, les prix du pétrole en avril 2020 étaient à 25 dollars et aujourd'hui, ce prix est aux alentours de 100 dollars le baril. Donc il y a de quoi s'effrayer. Heureusement, en France, quand même, on a mis tout de suite, on a mis des actions en place, notamment à travers le bouclier tarifaire, qui nous a permis de limiter la casse, puisque l'INSEE nous dit que sans ces mesures anti-inflation, on aurait aujourd'hui une inflation de plus de 8%, alors qu'aujourd'hui, elle est de 5%. Mais qu'en est-il pour les entreprises ? Les entreprises, c'est un peu pareil, parce que l'INSEE nous dit que même si elles n'ont pas été toutes concernées par le soutien de l'État, il n'empêche que sans les mesures de bouclier tarifaire, les entreprises auraient vu leur facture énergétique bondir de 50% et en réalité, elles n'ont augmenté que de 20%. Alors aujourd'hui, la donne est en train de changer parce que je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, qui n'avait pas agi pendant 11 ans, qui n'avait pas augmenté ses taux d'intérêt, nous a dit aujourd'hui, il faut agir contre cette inflation qui est trop importante. Donc j'ai commencé à augmenter mes taux d'intérêt. Alors ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les entreprises parce que ça signifie des financements plus élevés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle peut agir que sur son inflation locale. Or, les prix de l'énergie, c'est un bien importé. Donc la Banque Centrale Européenne, elle ne va pas pouvoir avoir une action directe sur les prix des matières énergétiques. Alors, c'est pour ça que je me tourne la première question vers vous, Philippe Chalmin. Comment peut-on expliquer cet emballement des prix de l'énergie jusqu'à aujourd'hui ?
Bon, merci de votre invitation. C'est vrai qu'en cet automne 2022, vous l'avez dit, nous connaissons, et là je crois que je ne mâche pas mes mots, la pire crise énergétique que le monde ait connue, et l'Europe en particulier, depuis les années 70. Dans les années 70, ça avait été des chocs pétroliers. Aujourd'hui, nous sommes confrontés non point tant à un choc pétrolier, car au fond, les prix du pétrole dans la zone des 80-100 dollars le baril restent, dans la situation actuelle, presque raisonnables. Le vrai choc, il intervient sur le marché du gaz naturel, où la multiplication des prix a été grossièrement par 20, et par effet d'entraînement du fait du fonctionnement du marché de l'électricité en Europe, nous assistons à une flambée aussi des prix de l'électricité. Je parle là, bien entendu, des marchés de gros, non pointant des consommateurs, des ménages français protégés par les boucliers dans un sens ou dans un autre, mais sur les marchés de l'électricité, le multiplicateur est x10. Donc une crise énergétique majeure, mais pas qu'une crise énergétique, car il faut se rendre compte que nous avons aussi une crise qui commence à s'atténuer un peu, mais que l'on a lourdement connue sur l'ensemble des marchés de matières premières, notamment de matières premières industrielles, qu'il s'agisse de métaux, mais aussi de matières premières agricoles aussi. Et puis, alors là, quand même un petit peu liée à l'Ukraine, mais certainement beaucoup aussi à la Chine, une flambée des prix agricoles au niveau mondial, qui fait que, globalement, les prix des matières premières se retrouvent aujourd'hui à des niveaux qu'ils n'avaient pratiquement pas connus depuis la dernière forte période de tension entre 2008 et 2012 à peu près. Juste un petit mot pour vous signaler d'ailleurs que si les marchés de matières premières, c'est toujours fascinant de les suivre parce qu'ils sont au fond quelque part la partie émergée de toutes les tensions géopolitiques, géoéconomiques de la planète, mais ils n'en sont qu'un indicateur. Et ma lecture, j'ai professeur d'économie, c'est faux, je suis professeur d'histoire économique, et ma lecture de la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui au cœur d'une crise systémique comparable aux deux grandes crises systémiques du XXe siècle, c'est-à-dire celle de 1929 et celle des années 70. Et je crois que là, c'est quelque chose qui dépasse quelque part assez largement les matières premières. Alors, nous sommes au cœur et finalement au carrefour de quatre crises. Une crise énergétique, une crise que l'on a peut-être un peu oubliée parce qu'effectivement elle s'adoucit un peu, mais qui a été quand même très forte, qui a été une crise logistique. Et c'est au travers de cette crise logistique d'ailleurs qu'on a pour la première fois parlé dès l'année dernière du terme de pénurie, une crise agricole et une crise industrielle. Je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que cette crise, cet ensemble de crises est antérieur à la guerre en Ukraine. Ça n'est pas la guerre en Ukraine qui a tout provoqué. Si je prends simplement un certain nombre de prix mondiaux ou européens, la moyenne 2021 par rapport à la moyenne 2020, alors vous me direz c'est un peu biaisé parce que les prix en 2020 étaient quand même plutôt déprimés. On est même tombé plus bas que 25 dollars le baril. On est tombé en avril, je passe sur le prix négatif du WTI pendant quelques heures, ça était anecdotique, mais le Brent est tombé à 15 dollars le baril. Donc le référentiel reste quand même relativement bas. Mais en 2021 versus 2020, le prix du gaz naturel en Europe avait en moyenne annuelle déjà augmenté de 397%. Le prix du fret conteneur avait augmenté de 297%, celui de l'électricité sur les marchés de gros européens de 220%, un produit que vous n'utilisez peut-être pas tous les jours, mais qui est important, je dirais, pour votre vie quotidienne, le prix de l'urée. L'urée, c'est un engrais azoté. Et l'engrais, il est indispensable, bien entendu, pour les activités agricoles. Eh bien, le prix de cet engrais azoté avait augmenté de 112%, celui de l'acier de 135%, etc. Et à la limite, en 2021, par rapport à 2020, le pétrole, lui, n'avait augmenté que de 35%. Donc, c'est vrai, l'Ukraine a aggravé la situation par le biais des sanctions, par le biais de l'utilisation, pas idiote d'ailleurs, de la part de Poutine de l'arme du gaz, par le biais des conséquences des tensions sur le gaz, sur les engrais par exemple, par, c'est vrai, la fermeture des ports ukrainiens, ce qui a provoqué des tensions sur les marchés agricoles, sur quelques autres métaux aussi, même si la Russie n'était pas essentielle sur la plupart de ces marchés. Mais incontestablement, la crise sur les marchés de matières premières, elle est antérieure aux événements du 25 février, donc à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et elle a été amplifiée et, je dirais, elle a surtout rajouté une certaine angoisse géopolitique, d'ailleurs, qui va se poursuivre dès ce week-end avec l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois. On pourrait peut-être en parler un petit peu. Alors, je voudrais simplement revenir sur un certain nombre de ces crises. La première, parce qu'on l'a un peu oublié, ça a été quand même la crise logistique. Là où un conteneur que l'on payait entre 1 000 et 1 500 dollars pour balader ses produits de Chine vers l'Europe, on est monté par moment à 10 000 dollars, avec en plus des retards, avec, et c'est ça qui a nourri d'ailleurs dans nombre de secteurs industriels, je ne vous parle même pas des semi-conducteurs, qui a nourri une impression de pénurie. Alors, cette crise, aujourd'hui, semble quand même plus contenue. Les tarifs de conteneurs, ces dernières semaines, ont fortement diminué. C'est peut-être une bonne nouvelle. Malheureusement, quand on regarde bien, la cause de cette bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle, puisque c'est, on pourra peut-être en parler, l'entrée du monde, non plus dans un scénario de stagflation. Alors ça, au niveau mondial, on peut parler de stagflation, mais au niveau des pays avancés, et notamment de l'Europe, je forgerai le mot de récessoflation. Ce n'est pas très, très joli, mais c'est probablement la réalité. Alors, la crise majeure, c'est la crise énergétique. Et la crise énergétique, je le répète, la plus forte que le monde ait connue depuis les années 70. L'originalité, c'est que ce n'est pas venu du pétrole, c'est venu du gaz. Pourquoi est-ce que c'est venu de manière aussi importante du gaz? C'est que ces dernières années, pour des raisons que je qualifierais un tantinet d'idéologiques, nous avions, les Européens en général, les Allemands en particulier, mis littéralement notre tête sur le bio du gaz russe. En ce sens que nous avions initié une transition énergétique au niveau européen. Cette transition énergétique visait à faire du tout renouvelable, admirable. Pour des raisons idéologiques, il était entendu qu'on devait fermer les centrales nucléaires, que l'on n'allait pas importer de gaz de schiste américain parce que c'était un mauvais gaz, que l'on allait s'efforcer, bien entendu, de supprimer et de sortir du charbon. Et donc, simplement, ces énergies renouvelables, elles avaient un petit défaut, celui d'être intermittent. Et donc, comme on était en plus en phase d'électrification de nos économies, ben, il fallait qu'avoir une énergie d'appoint pour permettre justement d'avoir une alimentation régulière en énergie, lorsqu'il n'y aurait pas de vent ou de soleil. À titre d'exemple, la première flambée des prix du gaz naturel, elle intervient l'année dernière, à un moment, à fin de l'été, début de l'automne 2021, où il y a eu une panne totale de vent en Allemagne et la production d'électricité éolienne en Allemagne a diminué de 50%. Comme la consommation d'électricité restait la même, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert les vannes des centrales à gaz, le gaz devenant l'énergie d'appoint essentielle pour assurer les transitions. Ce gaz, mais c'était merveilleux. Il coulait par de très, très jolis tuyaux venant de Russie, venant de nos amis russes, et les Allemands, d'ailleurs, en avaient profité pour en faire le pivot de leur ostpolitique. Le problème, alors l'année dernière, le conflit avec la Russie a commencé sur l'éventuelle ouverture de Nord Stream 2, souvenez-vous-en, et puis aujourd'hui, c'est la panne. Nous recevons de moins en moins de gaz russe, nous continuons à importer notamment la péninsule ibérique, paradoxalement, du gaz naturel liquéfié russe. Pour l'instant, il n'y a pas totalement d'embargo. Au même moment, il se trouve que la demande de gaz naturel liquéfié explose aussi en Asie, parce qu'il y a aussi des sécheresses en Chine, la production hydroélectrique diminue, etc. Le résultat, mon gaz naturel, qui valait aller entre 5 et 15 euros le mégawattheure durant les années 2010, a commencé pour la première fois à l'automne dernier, donc avant la guerre, à dépasser les 100 euros. Et puis, vous le savez, au moment de la fermeture de Nord Stream 1, on a dépassé sur le marché de gros européen les 300 euros. Là, les prix sont retombés parce que les stocks sont à peu près pleins. On est tombé sur le marché de l'immédiat à 100 euros, mais sur le marché à terme, donc sur les livraisons 2023, nous sommes à 150 euros le mégawattheure, c'est-à-dire 15 fois plus que les années 2020. Et ça, malheureusement, nous n'avons aucune porte de sortie. C'est le talon d'Achille de l'Europe, sachant que les États-Unis, eux, n'ont pas ce problème, puisqu'ils ont leur propre production de gaz de schiste. Le prix du gaz aux États-Unis a augmenté, mais bon, le gaz au niveau international est coté en dollars le million de BTU. Vous multipliez par 6 pour avoir le dollar équivalent baril de pétrole. Et là où le gaz naturel vaut 6 à 7 dollars le million de BTU aux États-Unis, l'équivalent en Europe et en Asie est de l'ordre de 30 à 40 dollars le million de BTU. Donc, à titre d'exemple, parce qu'on n'en est pas conscient en France, Mme Borne nous a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir simplement une hausse de 15% des prix l'année prochaine. Les ménages, les toutes petites entreprises, pas les TPE, pas les grandes entreprises. Aujourd'hui, le gaz naturel en baril équivalent au pétrole, il se balade entre 250 et 300 dollars. Ça veut dire que ça vaut 2 à 3 fois plus cher que le pétrole. Ce qui veut dire que d'ailleurs, dans certains cas, il est plus intéressant, plutôt que d'utiliser du gaz, de faire tourner un générateur alimenté par du fioul. Je ne vous dis pas du résultat en termes carbone. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous connaissez, je ne reviendrai pas là-dessus, le mécanisme. Alors, du côté de la transition énergétique, on peut dire qu'il y avait eu un biais idéologique, on ne veut plus du nucléaire, etc. Et puis, il y a eu un autre biais idéologique, cette fois-ci de l'autre côté, qui a été celui de la libéralisation et de la dérégulation du marché de l'électricité en Europe. Jusque-là, nous avions en France un merveilleux monopole, des prix administrés qui avaient été calculés, une formule de prix célèbre de Marcel Boiteux lorsqu'il était le président d'EDF. Du jour au lendemain, on est passé au marché. Et on est passé au marché avec un principe qui n'était pas idiot d'ailleurs, qui était que le prix du kilowattheure devait être le prix du dernier kilowattheure produit par la dernière centrale appelée. À l'époque, c'était du renouvelable. Ça permettait de subventionner le renouvelable. Ben aujourd'hui, c'est du gaz naturel. Et le résultat, vous regarderez, ceux qui nous écoutent, vos factures EDF. Vous payez à peu près aujourd'hui votre mégawattheure aux alentours de 70 euros. Les prix sur le marché de gros européen se sont baladés entre 500 et 1000 euros ces dernières semaines. Ça a un peu baissé, puisqu'ils sont totalement indexés sur le prix de l'électricité. Donc voilà la crise dans laquelle nous nous trouvons, dont malheureusement, à court terme, il n'y a pas d'issue, et que l'on a un peu oublié en France, parce qu'on a pratiqué la politique de l'autruche sans se rendre compte du choc auquel les entreprises étaient confrontées, sachant, et je rappelle en plus, que les prix de l'énergie, tout comme les prix de toutes les autres matières premières, sont cotés dans un truc qui s'appelle le dollar. Et il ne vous a pas échappé que le dollar a fortement augmenté. Donc nous avons été condamnés à une sorte de double peine. Et l'augmentation des prix en dollars se trouve amplifiée par la baisse du dollar par rapport à l'euro. Un mot, il me reste une minute, sur les autres matières premières. Une crise agricole incontestablement, des prix multipliés alors de manière plus raisonnable par 2 suivant les produits, avec tout le problème bien entendu qui est celui des engrais, des prix des minerais et métaux, des matières premières industrielles, eux aussi qui ont connu des flambées. Alors là, les points les plus hauts ont été atteints au mois de mars-avril 2022, au moment où on avait l'impression que l'ensemble de la mer Noire allait être fermée et que la guerre était à nos portes. Aujourd'hui, soyons honnêtes, nous assistons à un relatif assouplissement de la plupart de ces marchés, mais je ne suis pas sûr que ce soit là une très très bonne nouvelle, puisque c'est lié incontestablement à la diminution des perspectives de croissance en général et en Chine en particulier. Et j'en reviens bien entendu à cette échéance majeure le week-end prochain du sacre de Xi Jinping. Je crois que j'ai utilisé mon temps de parole.
Merci beaucoup d'avoir dépeint ce contexte qui est quand même heurté. On voit en fait toutes les limites de notre trop forte dépendance à la Russie. Pour autant, on voit que quand même le climat des affaires tient bon, puisque en France, il est au-delà de sa tendance de longue période. Donc les entreprises, pour l'instant, sont en train de résister. Alors je me tourne vers vous, Arthur. Dites-nous comment elles ont réagi jusqu'à présent et quelles sont en fait leurs marge de manœuvre à très court terme.
Oui, alors merci pour cet exposé, professeur Estefany, parce que vous avez bien montré à la fois l'intensité de cette crise, mais aussi son caractère protéiforme. Et ça, nos clients le ressentent très bien dans leur quotidien, en étant confrontés à une grande variété de sujets. Donc, il y a des sujets de pricing, il y a des sujets de rupture d'approvisionnement, il y a des sujets de manufacturing, il y a des sujets de tarification, il y a des sujets de liquidité. Bon, et j'ai plus assez de doigts. Et c'est un peu ce qui se passe pour l'entreprise aujourd'hui. Il y a une grande variété de sujets aigus auxquels ils sont confrontés. Et donc, le premier point, à mon sens, c'est un point de méthode. C'est un point de méthode, c'est-à-dire qu'il s'agit de différencier le temps court et le temps long, la réponse tactique aux urgences, qui permet de dégager des marges de manœuvre, et la réponse à long terme, qui est essentielle, parce que les entreprises doivent continuer d'investir, de développer de nouveaux savoir-faire, d'accélérer leur plan de transformation pour faire face au paradigme de demain. Voilà. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est effectivement qu'on puisse évoquer ensemble, dans un premier temps, ce temps court et ces mesures tactiques qui se déploient évidemment sur un axe opérationnel, mais aussi sur un axe financier. Et je vais laisser Marie-Laure nous en parler.
Alors, sur l'axe financier, je pense qu'il est important de ne pas oublier que, comme vous le faisiez remarquer, la crise a été post-Covid. Elle a été par la nécessité de constituer des stocks tampons et de pallier les problématiques de la logistique ou autre. Et deuxième point, ce changement de paradigme a été accompagné par une capacité financière qui obérait totalement la conséquence immédiate du coût. Ne pas oublier que quand on fait normalement avec une adhésion de ses partenaires un prévisionnel, on le fait avec une courbe parallèle à la croissance du chiffre d'affaires. Ce que l'on constate depuis 2020, ce qui est très très important, c'est qu'il y a une rupture entre le financement du BFR de croissance et le chiffre d'affaires, puisque c'est un BFR exceptionnel. Dans ce cadre-là, un certain nombre de choses ont dû être adaptées assez facilement, avec encore une fois une trésorerie plutôt pléthore grâce aux aides, qui était la constitution de stocks tampons, avec une décision stratégique. Est-ce que c'était pour éviter d'avoir une rupture au titre du chiffre d'affaires et de la trésorerie encaissée, et donc un stock de produits finis plus important, ou au contraire, un stock de matières premières pour parier contre la hausse et se couvrir contre la hausse. Dans les deux cas de figure, le coût de ces stocks ont eu une incidence financière et donc doivent être, puisque ce sont des stocks tampons, sur le plan financier, à mon sens, analysés comme un coût d'immobilisation. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que, en termes de cash, c'est immédiatement, effectivement, un décaissement, puisqu'on a le décalage de trésorerie. Mais toutes les entreprises n'ont pas été de la même façon impactées. Ne pas oublier que certaines structures dans le secteur tertiaire peuvent immédiatement, dans la phase suivante, répercuter les coûts. Et en revanche, pour la grande distribution, par exemple, la perte de chiffre d'affaires pouvait avoir un effet de cash crunch tout de suite, puisque en général, elle n'avait pas de ligne backup. Les solutions ont été de demander l'accompagnement parfois par des financements structurés de suractifs ou des gages, ce qui pouvait induire, en cas de difficulté pour l'entreprise, un conflit potentiel entre des clauses de réserve de propriété, des droits de rétention par les transporteurs et ou encore des créanciers gagistes. L'élément le plus fondamental, c'est que l'ensemble de ces éléments ont été faits avec un prévisionnel en reprise d'activité. Aujourd'hui, en 2022, comme vous le faisiez remarquer, l'incidence, c'est qu'il faut remodifier son modèle en tenant compte de la récession et en tenant compte de la décision stratégique qu'ont eu l'entreprise de constituer soit des stocks tampons de produits finis, soit des stocks de matières premières. Certes, elles se sont couvertes parfois, mais pas forcément suffisamment, parce qu'on ne pouvait pas anticiper en 2021, lorsqu'on a fait un business prévisionnel, d'une part de l'inflation, d'autre part de la modification de la détermination de son point mort, puisque les éléments de coût variable ont été de façon exponentielle par rapport au coût global, mais ne pas oublier aussi, et de façon pérenne cette fois-ci, que le coût fixe est aussi augmenté, notamment par, d'une part, les frais financiers, et d'autre part, c'est ce qu'on voit avec une logique de la CFDT sur Total et autres, l'inflation sous-jacente avec les salaires. Dans ce contexte, les lignes court terme et l'adhésion des partenaires se fait sur le plan annuel. Ça va avoir deux incidences. La première incidence que l'on va avoir, c'est que ces révisions, et j'associe là-dessus l'appréciation du risque par les agences de cotation et par les assureurs crédits, la première, c'est que ces révisions sont annuelles. En conséquence de quoi, elles sont sur les bases historiques, et on va voir pour l'avenir que la difficulté, c'est qu'elles sont basées sur un BFR exceptionnel qui est cumulé à celui qui est normatif. La détermination de ce cumul, la détermination de l'équilibre à retrouver du point mort en tenant compte de ça est une chose très très difficile. Et surtout, à date, on rentre dans un système où on a une problématique parce que les aides du quoi qu'il en coûte sont terminées et qu'il va falloir penser aussi à intégrer un nouveau coût qui est celui de l'indisponibilité de cash pour rembourser les aides antérieures. Dernier point, je pense, qui est important de mettre en évidence, certains secteurs, comme le BTP, comme l'ingénierie, comme les promotions immobilières, se retrouvent avec un risque de pérennité, puisque la notation, leur notation peuvent être, elles n'ont pas pu forcément répercuter l'ensemble, et en général, elles ne le peuvent pas, ou partiellement, à leurs clients, en conséquence de quoi, c'est leur propre rentabilité qui est atteinte. Et lorsqu'elles demandent à des organismes bancaires ou des organismes de caution d'émettre des garanties pour la nécessité et la continuité de leur activité, elles peuvent se retrouver dans une impasse qui est une incidence sectorielle énorme. En conséquence, et en conclusion, on peut dire que les réactions, elles doivent être immédiates, la stratégie, elle est difficile, et que si le management n'emporte pas l'adhésion de ses partenaires en considérant une approche plus start-upeuse, plus révolutionnaire, plus hors process, en pouvant justifier dans la traduction, dans le process, de la nécessité de modifier très vite son business model, eh bien, elle aura du mal à trouver des financements.
Et donc, Arthur, au niveau opérationnel, quelles sont les solutions à mettre en place à court terme pour les entreprises ?
Alors, à très court terme, le principe directeur, c'est de retrouver de l'agilité opérationnelle. Je crois que ça, c'est absolument fondamental. Et notamment en raccourcissant les temps de réponse de l'entreprise. Donc, le point de départ, à mon avis, le bon point de départ, c'est évidemment un diagnostic élargi des criticités de l'entreprise, mais aussi des zones d'opportunité qui peuvent être actionnées pour dégager des marges de manœuvre. Donc, le diagnostic, il va porter sur quoi ? Sur les vulnérabilités de la supply chain, évidemment, dans le cadre d'une cartographie en fait, des flux et des fournisseurs, qui doit être absolument end-to-end pour tout couvrir. Et quand on va chercher à cartographier les fournisseurs et à chercher les vulnérabilités, on va remonter pas seulement au rang 1, mais au rang 2, 3, 4. Parce que ce que nous ont montré les deux dernières années, c'est qu'un certain nombre de ruptures, elles sont venues non pas des rangs 1 ou 2, mais des rangs 3 et 4, et elles ont été extrêmement problématiques. Donc ça, c'est le premier point dans ce diagnostic. Le deuxième, c'est l'exposition aux fluctuations des prix de l'énergie. Ça, c'est absolument indispensable. En se concentrant sur les produits clés de la gamme et en prenant en considération les contraintes contractuelles à l'achat. Bon. Et puis, de manière symétrique, on va chercher à très court terme à regarder les marges de manœuvre en matière de hausse de prix, donc les marges de manœuvre contractuelles et les marges de manœuvre concurrentielles. Alors, à cet égard, quand même, deux points d'actualité. Un, on a quand même une certaine fluidification du transport et de la logistique au sens large, qui fait revenir quand même le risque d'une concurrence import, qui avait un petit peu disparu et qu'il faut réintégrer dans les modèles concurrentiels et donc dans les perspectives de hausse de prix. Et puis on a, au premier semestre, connu des hausses de prix parfois confortables et parfois supérieures à la hausse des coûts. Aujourd'hui, nos clients nous disent que, pour certains d'entre eux, ils entrent quand même dans la zone grise et dans la zone de résistance de la part de leurs clients. Donc ça aussi, ça doit être intégré au modèle. Et puis le dernier point du diagnostic, c'est évidemment celui de la liquidité. Ça, c'est absolument indispensable. Tout concourt à une hausse du BFR. Les stocks explosent. Les assureurs crédits ont parfois du mal à suivre l'activité et à protéger l'entreprise. Donc on a toute une série de thématiques aiguës là qui se posent et qui ont des conséquences. en matière de BFR et donc de liquidité. Donc ça, ça doit être regardé de très près. Donc ensuite, la réponse. La réponse, elle est où? Alors, encore une fois, la clé, c'est la réactivité. C'est la réactivité. Donc la réponse, c'est d'abord la maîtrise de la liquidité. Donc, moi, il me semble indispensable de définir un plan d'action de maîtrise des coûts fixes. Ça, je crois que c'est absolument central dans la situation dans laquelle on se trouve. Et de manière corollaire, un plan de visibilité sur le cash à 13 semaines, très fin, et de pilotage de ce cash, de sorte que s'il y a des éléments adverses qui surviennent, on ait une capacité de réaction et on ne se retrouve pas dans une situation de tension trop aiguë. Alors après, les solutions en matière de supply chain, évidemment, il y a tout ce qui est resourcing et multisourcing. On voit aussi se développer, ça a été le cas dans la plasturgie, des solutions de mutualisation des achats à l'échelle de la filière. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça permet de négocier de manière beaucoup plus opérante. Et puis ensuite, il y a les adaptations opérationnelles. Donc la remise à plat du système de commande, le raccourcissement de la cadence des processus S&OP ou de planification, c'est-à-dire une planification qui est fondée non pas sur les ordres habituels de planification, mais sur la disponibilité des composants. Donc on introduit l'agilité, on introduit la réactivité, et on retrouve des marges de manœuvre opérationnelles grâce à ça. Et puis après, évidemment, l'agilité sur les prix de vente. L'agilité sur les prix de vente. Donc des révisions hebdomadaires des prix de vente, une systématisation des clauses de révision, et puis, et c'est essentiel, doter la force de vente des bons arguments pour aller négocier le prix de vente, pour aller négocier les tailles de commandes, pour aller négocier les délais aussi. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens, et c'est évidemment une vision sélective, mais enfin, l'essentiel des réponses concrètes qui peuvent être mises en œuvre à très court terme. Et sur le plan organisationnel, ça va impliquer évidemment des adaptations, parce que l'entreprise, elle n'est pas organisée pour traiter en urgence une aussi grande variété de sujets. Et la réponse que nos clients mettent en œuvre et qui est assez performante, c'est la création de task force dédiées à ces différents sujets.
Très bien. Alors, on voit bien que la problématique n'est pas levée. Si on écoute les entreprises aujourd'hui françaises, elles sont vent debout sur la fixation des prix de l'électricité en Europe, en considérant que c'est pas un système efficace et qu'elle pénalise l'ensemble des entreprises françaises en particulier. Alors, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'on peut espérer une solution de sortie au niveau européen pour que alléger le coût de la facture énergétique? Et deuxième question, quelles sont pour vous les prévisions, si c'est possible de faire, sur les prix des matières premières sur le plus long terme?
Ouais, la boule de cristal. La boule de cristal, elle est quand même sacrément obscure à l'heure actuelle par des incertitudes économiques qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, des quasi-certitudes. L'Europe va être cette année, en 2023, en croissance zéro, voire pour un certain nombre de pays en récession. Donc ça, il faut en tenir compte. Et donc, le mot de stagflation que j'avais commencé à employer l'année dernière, pour l'Europe, ça va être plutôt de la récessoflation. Sachant, comme vous l'avez souligné, que la France est un peu isolé là-dedans. Nous sommes, pour une fois, c'est rare, les meilleurs élèves de l'Europe. 5% d'inflation, c'est merveilleux. Je vous rappelle que l'inflation, chez nos amis bataves, par exemple, chez les Néerlandais, dépasse les 15%, et je ne vous parle pas des pays baltes, etc. Là-dessus, dans mon exercice de prévision, je dois aussi intégrer un certain nombre de paramètres, donc j'ouvre mes parapluies. J'ai un premier parapluie géopolitique, je suis totalement incapable de vous dire ce qu'il va advenir de la guerre en Ukraine, de ses conséquences, de la manière dont on pourra ou ne pas en sortir. J'attire votre attention sur le fait que les problèmes économiques rencontrés aujourd'hui par la Chine peuvent inciter M. Xi Jinping à divertir un petit peu les Chinois par des discours nationalistes. Et donc, les tensions sur Taïwan, il faut quand même, qu'on le veuille ou non, les intégrer dans notre panorama. Je vous passe sous silence l'Iran. Y aura-t-il, par exemple, un accord sur le nucléaire iranien ? Donc, on a énormément de questions géopolitiques. On a quand même, et il ne faut pas l'oublier, des questions sanitaires. Je vous rappelle que l'alphabet grec, nous ne l'avons pas encore totalement décliné. Donc, il y a place pour un certain nombre de variants, et pas seulement en Chine, bien entendu. Et qu'enfin, et là j'ai une incertitude climatique immédiate majeure, êtes-vous capable, chers amis, de me dire si l'hiver sera dur ou doux ? Si l'hiver est doux, je pense que nous serons un petit peu heureux et au fond nous nous réjouirons tous du réchauffement climatique, même si vous aurez moins de neige cet hiver pour aller skier. Mais il faut souhaiter quand même que l'hiver soit doux, car si l'hiver était dur, ça risquerait alors là d'avoir des conséquences extrêmement graves sur la situation. Alors ensuite, dans mes prévisions, on a dit un mot, et je crois que c'est vous qui l'avez souligné, la détente logistique est une réalité. Bon, que ce soit d'ailleurs logistique internationale et un petit peu quand même logistique nationale, ne nous faisons point trop d'illusions, les goulots d'étranglement demeurent. Il faut quand même au minimum 2 ou 3 ans pour sortir un nouveau porte-conteneur. Les investissements dans les ports, parce que le vrai goulot d'étranglement, c'était la logistique portuaire, il demeure. Il y a moins de boîtes à transporter, mais il n'en reste pas moins que il faut garder en tête que la gestion logistique va être très importante, et je suis totalement d'accord avec vous, il faut que les entreprises revoient l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, revoient finalement la structuration de leur chaîne de valeur. Je ne dirais pas que c'est le temps, pourquoi pas quand même, d'imaginer quelques formes de relocalisation ou de rapprochement en tout cas de ces fournisseurs. Sur l'énergie, sur le pétrole, je serai relativement optimiste. Je vous signale que des gens pour lesquels j'ai un respect relativement limité, c'est-à-dire Goldman Sachs, il y a encore quelques semaines, nous sortaient du prix du pétrole à $175 pour la fin de l'année. Mon pronostic, je dis toujours à mes étudiants, quand je dis « je pense », vous pensez « je pense », donc « je spécule ». Nous sommes... Alors, rappelez-vous une chose, et ça, c'est très important pour les entreprises. La caractéristique du monde aujourd'hui, c'est de vivre dans l'instabilité absolue. Vous êtes obligé, de toute façon, d'avoir une pensée au sens étymologique du mot de spéculation. Speculare en latin, ça veut dire se projeter en avant. Donc, quand je vais vous dire « je pense que le prix du pétrole », vous raisonnez, il pense donc, il spécule. Et un de mes premiers maîtres dans le domaine du trading me disait « ce dont on a besoin en permanence, c'est d'un crayon. Mais au bout de ce crayon, il doit y avoir une gomme pour être capable en permanence de remettre en cause vos certitudes. Nous sommes dans un monde incertain. De grâce, n'ayez pas de certitudes. Je pense néanmoins que l'année prochaine, en 2023, le prix du baril de Brent devrait normalement osciller dans une fourchette de l'ordre de $80 à $100. Je ne crois pas que nous ayons devant nous un choc pétrolier, tout simplement parce que la Russie a besoin d'exporter du pétrole, donc elle tire les prix vers le bas, il y a quand même les sanctions, que le monde va quand même voir sa croissance ralentir, donc moins de consommation. Donc j'estime que la zone des $80-$100 paraît un pronostic relativement raisonnable. On est tranquille sur le cas du pétrole. Là où on n'est pas tranquille du tout et où je ne vois pratiquement aucune solution sur le court terme, si ce n'est un hiver d'une douceur extraordinaire, c'est bien entendu le marché du gaz. Et le marché du gaz, on ne le contrôle pas en Europe. On peut toujours dire on va plafonner le prix du gaz au niveau européen. C'est de la rigolade, puisque de toute façon, le prix du gaz, c'est le prix, les marchés déterminants, c'est le marché du gaz naturel liquéfié au niveau mondial et plutôt en Asie. Et je vous l'ai dit, actuellement, on est dans cette zone des $250-$300. Il y a un peu d'espérance parce que le recul chinois et le fait que la Chine recourt de plus en plus au charbon parce qu'ils trouvent le GNL trop cher, eh bien, ça libère un petit peu de production de GNL pour l'Europe. Donc les prix peuvent un petit peu baisser, mais il faut s'attendre quand même. Vous avez vu la fermeture des deux Nord Stream, l'accident sur le pipeline Druzhba il y a quelques jours. De toute manière, il faut se préparer au moment où nous n'apporterons plus de gaz russe. On peut passer l'hiver, mais s'il n'est pas trop dur, on passera l'hiver. Il n'y aura pas vraiment de pénurie, mais la pénurie se fera par les prix.
J'avais quand votre même question. Excusez-moi, j'avais quand même l'impression qu'il fallait absolument reconstituer nos stocks pour passer l'hiver et que nos stocks ont été reconstitués.
Stocks sont reconstitués. Si l'hiver est doux, on passe. Si l'hiver est rude, on ne passe pas.
C'est plutôt l'année prochaine le problème, en fait.
Ce sera la reconstitution des stocks l'année prochaine. À ce moment-là, je pense quand même que tous les terminaux de regazéification flottants... Il faut se rendre compte que l'Allemagne n'avait même pas un terminal de regazéification. Quand on parle de planification stratégique, là, c'est quand même intéressant. Donc, ils se sont dotés en catastrophe de... le premier terminal de regazéification devrait être opérationnel à la fin novembre. Donc, je dirais qu'on aura accès à du gaz naturel liquéfié, mais il faudra le payer. Votre question, vous voyez, j'y viens quand même, sur l'électricité. Oui, techniquement, on peut tout à fait imaginer revenir en Europe à un marché administré. On pourrait tout à fait imaginer que, comme c'était autrefois le cas pour les produits agricoles dans la politique agricole commune, que le Conseil des ministres de l'énergie européen détermine un prix qui serait un prix d'équilibre politique, etc., de l'électricité en Europe, quitte à inventer un mécanisme pour subventionner ceux qui ne passeraient pas à ce niveau de prix, qui seraient a priori les centrales à gaz. C'est tout à fait imaginable. Ça se heurte à énormément de réticences. N'oubliez pas qu'une bonne partie, même si les Anglais sont partis, une bonne partie de nos camarades européens sont quand même très libéraux et qu'il n'y a qu'en France qu'on rêve de prises administrées. Hein. Nous avons cette culture de la gestion des marchés par l'État, de la suppression des marchés. D'autres ne l'ont pas. C'est le cas des Néerlandais en particulier. C'est quand même encore un petit peu le cas des Allemands, même s'ils commencent à se convertir. L'Europe est un processus lent, l'Europe est molle. Et donc, là, je ne fais pas un pronostic, je serais quand même assez surpris que l'on ait des décisions drastiques de ce point de vue-là.
Mais il y a quand même l'Allemagne qui a décidé d'injecter 200 milliards pour soutenir son économie. Et donc, avec ce fait nouveau, l'Europe et notamment la France est en train de dire que se met en place un marché déloyal.
Nous en sommes parfaitement d'accord. J'avais rencontré au mois de juillet dernier l'ancien ministre de l'énergie polonais qui avait présidé d'ailleurs la COP 24 ou 25 lorsqu'elle avait eu lieu en Pologne. Et en juillet, il m'avait dit vous allez avoir le choix entre des prix insoutenables ou des déficits insondables. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'Allemagne a peut-être, comme ils ont été quand même quelque peu fourmis dans les allées fastes, ils peuvent être un peu cigales aujourd'hui. Les autres ne le peuvent pas. Et puis, ces aides, elles induisent, comme vous l'avez dit, une sorte de concurrence déloyale. Par exemple, la péninsule ibérique a obtenu le droit de plafonner le prix du gaz et donc de l'électricité. Ah, c'est vachement bien pour nous. Nous importons de l'électricité à coût un peu moins fort venant d'Espagne. Vous conviendrez qu'on ne peut pas gérer quelque chose chacun dans son coin, ce que nous faisons. Nos camarades britanniques qui nous ont quittés, Liz Truss, dans sa grand programme dans lequel elle baisse les impôts et elle augmente les aides, elle a décidé, carrément, d'un plafonnement du prix de l'électricité et du gaz. Pour les 6 premiers mois, le coût de la plaisanterie, c'est 40 à 50 milliards de livres sterling. Il faut être raisonnable. Mais sur le marché de l'électricité, on pourrait faire quelque chose. Très franchement, je ne suis pas sûr que le temps bruxellois soit un temps suffisamment court pour que ceci soit opérationnel. Et donc, les entreprises, malheureusement, qui ont aujourd'hui à négocier avec leurs distributeurs, leurs fournisseurs, pardon, les prix d'électricité et de gaz, certes, le président Macron a dit « attendez », je ne sais ce qu'ils peuvent attendre. Peut-être les prix pourraient-ils, si l'hiver est très très doux, baisser un peu, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Par rapport au contrat 2022, sur le gaz et l'électricité, ça va être du x3, x4, suivant les conditions de fourniture. Malheureusement, à court terme, il n'y a aucune solution. Et donc ça, il faut appeler un chat un chat. Les ménages, eux, auront une hausse de 15%, mais même les petites entreprises, 80% des boulangeries, par exemple, aujourd'hui, ont une consommation d'énergie supérieure au plafond qui a été fixé par le gouvernement, donc se retrouvent à devoir payer leur gaz et l'électricité au prix du marché. Et croyez-moi, eh bien, l'augmentation probable du prix de la baguette ne sera pour une fois pas liée à l'augmentation du prix du blé, elle sera liée à l'augmentation du prix de l'énergie nécessaire au four du boulanger. Très rapidement, alors le seul point positif de tout cela, c'est qu'à moyen terme, ça va quand même accélérer la transition énergétique vers d'autres renouvelables, le retour du nucléaire, mais tout ceci prendra du temps. Le développement, par exemple, de l'hydrogène, qui peut jouer un rôle fondamental dans le stockage et le transport de l'électricité. Un des grands problèmes de l'électricité aujourd'hui, on ne sait pas la stocker. Je vous rappelle qu'autrefois, dans ces temps heureux des années 2010, il y avait des moments où il y avait trop d'électricité renouvelable et les prix pouvaient être négatifs à certains moments. On y était habitué à ce genre de choses. Aujourd'hui, on l'a bien oublié. Avec l'hydrogène, on pourra peut-être arriver à stocker de l'énergie, donc à produire de l'hydrogène à partir de l'électricité renouvelable. Ça nous fera de l'hydrogène vert que l'on pourra transporter en utilisant les tuyaux du gaz à l'heure actuelle. Et donc, ça, je pense que de toute crise naît une opportunité. Vous connaissez l'idéogramme chinois, etc. Ça peut être vrai. Très rapidement, sur les autres matières premières, le climat général est quand même relativement à la baisse des prix, tout simplement parce qu'on a de fortes interrogations sur la demande chinoise, qui pèse quand même un poids fondamental sur la plupart des marchés. Une des choses qu'il va falloir suivre, parce que c'est une grosse interrogation, c'est par exemple ce que vont être les achats chinois de céréales sur le dernier trimestre. Il faut savoir quand même que la Chine, en 2019, avait importé un peu moins de 20 millions de tonnes de céréales. En 2021, elle en a importé plus de 60 millions de tonnes. Donc c'est la Chine qui a été responsable, quelque part, de la crise alimentaire mondiale. Qu'en sera-t-il dans les mois à venir? C'est aussi une interrogation. Ma vision est quand même plutôt à la détente des marchés, car là, de ce point de vue-là, le climat nous est favorable. La Russie, l'Australie ont fait des récoltes exceptionnelles. Et donc, normalement, on devrait avoir quelques détentes. Simplement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui produisent des produits qu'il faut emballer, l'une des seules matières premières pour lesquelles nous avons de fortes tensions de prix et qui persistent, alors pour d'autres raisons qu'il me serait trop long d'expliquer, c'est la sphère du papier, de la pâte à papier. Jamais les prix de la pâte à papier n'ont été aussi élevés. Et ceci, vous le retrouverez non seulement sur l'impression écriture, mais sur le papier d'emballage, c'est-à-dire tous ces cartons qui servent à emballer les colis que nous recevons par Amazon et quelques autres.
Très bien. Donc, on a bien compris que la facture énergétique pour les entreprises allait au moins être multipliée par 3. Alors, je me tourne vers vous, Arthur. Quelles sont, en fait, les solutions à mettre en œuvre pour les entreprises? Est-ce que c'est forcément une hausse des prix de vente pour essayer de contrecarrer cette facture énergétique?
Alors, je crois que chacun l'a senti. Hein. On est dans le cadre d'un changement de paradigme. Et un changement de paradigme, ça appelle des réponses plurielles et multiples. Moi, je retiens deux grands axes qui sont ceux sur lesquels les entreprises travaillent en priorité aujourd'hui. Un, sécuriser ses opérations. Et deux, faire face à l'inflation. Alors, sécuriser ses opérations, ça passe par quoi? Ça passe par des partenariats stratégiques. Et là-dessus, c'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport à, au monde anglo-saxon notamment, puisqu'on a eu tendance à traiter les fournisseurs, y compris stratégiques, comme des fournisseurs de communauté. Aujourd'hui, on revient quand même à des modes de fonctionnement beaucoup plus partenaires, alors qui impliquent de partager et de donner la visibilité sur la commande à 12 mois, et évidemment de vérifier la capacité du fournisseur à suivre, la capacité à traiter les volumes, mais aussi la capacité financière à accompagner ce mouvement. Deuxième point, on voit quand même une recentralisation des négociations fournisseurs à un niveau groupe plutôt qu'à une échelle régionale ou locale. Donc ça, c'est très important et ça permet aussi de sécuriser évidemment les approvisionnements, mais aussi de bénéficier de prix de marché et d'éviter des tensions inflationnistes trop aiguës. Voilà. Et troisième point, et vous l'avez évoqué, et ça m'a fait plaisir, on le constate quand même, il y a un mouvement de relocalisation qui est en marche, qui consiste à rapprocher le sourcing des lieux de production. Alors évidemment, ça évite les difficultés de transport, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le raccourcissement du lead time qui est en jeu, et ça évite d'avoir des stocks de sécurité trop importants. Donc ça a beaucoup de vertus. Alors, deuxième grand axe, accélérer la digitalisation. Les nouvelles technologies offrent des moyens extraordinaires pour faire face à cette équation d'instabilité. Et ces moyens, lorsqu'ils sont utilisés, augmentent la performance de l'entreprise de manière extrêmement significative. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve d'abord des nouveaux logarithmes prédictifs et l'utilisation de l'intelligence artificielle qui vont permettre de mieux prévoir la demande. Et prévoir la demande, c'est fondamental. Parce que plus ou moins 5% de fiabilité dans la prévision de la demande, c'est plus ou moins 100% de stock de sécurité. Donc l'impact sur la liquidité de l'entreprise est absolument phénoménal. Bon. Donc aujourd'hui, vous avez des outils. Alors je vais citer un exemple, une illustration dans le B2C, parce que ça parlera à chacun, mais si vous faites de la vente de pizza à domicile, si vous pouvez intégrer dans votre modèle prévisionnel le calendrier météo, le calendrier télé, le calendrier sportif, vous aurez de meilleurs résultats que si vous considérez que vous allez vendre la même chose que l'année dernière au même jour. Voilà. Et ça, ça a une incidence très forte. Alors, ces nouveaux outils et cette digitalisation, évidemment, elle ne s'applique pas qu'à la prévision des ventes. Vous avez des outils de gestion des entrepôts ou de gestion du transport qui offrent une vision en temps réel de l'ensemble des problématiques de l'entreprise et qui sont un support à la décision extrêmement puissant. Et vous avez aussi des outils pour gérer plus spécifiquement le BFR, qui sont très puissants et qui permettent de gérer le recouvrement, le règlement des fournisseurs, avec beaucoup de visibilité, de finesse, et d'éviter l'immobilisation de capitaux en masse quand elle n'est pas nécessaire. Donc ça, c'était la question de la sécurisation des opérations. Et puis après, alors comment on fait face à l'inflation ? Alors, on l'a évoqué, évidemment, la mise en place de contrats groupes, donc la recentralisation de la négociation a des effets vertueux, mais ce n'est pas le seul moyen. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'avoir un process et une équipe dédiée pour répondre aux demandes de hausse de prix de la part des fournisseurs. Et pourquoi ? Parce que ça permet de chercher des compromis cohérents au niveau de la famille de produits et d'éviter que la décision d'accepter ou pas la hausse ne se fasse que dans le cadre du rapport de force. Parce que lorsque c'est le cas, certains fournisseurs en situation de faiblesse sont moins bien traités et sont fragilisés. Et là, vous créez finalement une rupture d'équilibre et des difficultés dans la capacité de vos fournisseurs à vous servir. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir une réflexion sur la gestion et l'acceptation des hausses de prix qui se fassent de manière cohérente, homogène, à l'échelle de la famille de produits. Alors ensuite, sur l'inflation, on revient comme à un basique qui est d'accélérer la rotation des produits. Accélérer la rotation des produits, ça reste un très bon moyen de limiter l'impact de l'inflation, à la fois en marge sur la trésorerie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on reparle, malgré les instabilités qu'on évoquait, de juste à temps, de supply chain à flux tendu. Et c'est bien le grand défi dans l'univers instable auquel on est confronté.
Ouais, mais tu as parlé aussi de la problématique de la liquidité. C'est comment est-ce que tu emportes avec toi tous ceux qui vont te permettre de supporter. Ça veut dire que tu dois anticiper la possibilité d'avoir une répartition de cette volatilité avec tes partenaires. Je rappelle juste une chose qui me semble importante. On a parlé du penser, donc d'anticiper. Et en revanche, il y a des process. Et il y a des process, notamment pour les établissements financiers, qui sont des notations annuelles sur la base historique. Or, en 2023, les bases historiques ne seront pas sur la base du BFR normatif, puisque c'est 2020, 2021 et 2022. Le seul moyen pour éviter, par l'intelligence et la volumétrie, une révision à la baisse de ta note au motif que ce sont des années de rupture, c'est de bien expliciter à tes partenaires quelles sont les hypothèses que tu prends et surtout l'organisation du management pour anticiper la répartition de cette volatilité entre tous les acteurs. Alors, les clients et les fournisseurs, si tu es un élément incontournable, il y a plein de solutions que l'on a vues apparaître, qui sont le paiement direct de ton propre fournisseur, qui sont un précommande, un acompte, mais qui sont aussi, dans certains cas, des prêts au sein de consentis par le client, ou encore, effectivement, des sortes de JV. J'attire aussi votre attention sur le fait que quand je vais avoir des clauses de révision et de répercussion avec des paliers et dans ses propres paliers en fonction de chacune des matières qui sont nécessaires, attention, en cas de retour, c'est-à-dire aujourd'hui moins de tension sur les bases des autres matières premières que le coût de l'énergie, eh bien normalement je suis censé redonner cet élément. Ça veut dire que dans mon prévisionnel de trésorerie que je vais vendre à mes institutionnels, il faut bien que je prenne en compte cette possibilité d'avoir à répercuter, cette fois-ci, on a vu tout à l'heure les 90 jours de répercussion que tu peux avoir lorsque c'est à la hausse, mais tu dois aussi les répercuter dans l'autre sens. Donc ta gestion et ton pilotage de trésorerie court terme est très important. Vis-à-vis des banques, tu vas avoir très très vite par rapport à cette notation et par rapport à la confiance qu'elles ont, le renouvellement ou non de leur ligne de crédit, ce qui a une incidence immédiate sur la stratégie que tu vas pouvoir avoir. Pareil pour les assureurs crédit. Et deuxièmement, de décider ou pas, est-ce qu'on peut mettre en ligne des lignes de crédit de campagne documentées justement par cette reprise en compte de l'inflation. Tous ces éléments-là, les établissements financiers aussi doivent tenir compte d'une inflation, et on le voit bien sur les taux. Ça veut donc dire que ton coût fixe va augmenter d'autant. Et toute stratégie où tu auras trop de stock tampon ou pas à la bonne situation aura une incidence immédiate sur ta trésorerie d'exploitation et donc sur la valeur de ton entreprise et donc sur l'association de tes institutionnels ou tes crédits et, tes fonds, et ton fonds de roulement. Là aussi, ça me semble important d'attirer votre attention sur le fait qu'à date, tous les covenants peuvent sauter parce qu'on n'a pas les éléments qui ont été ceux qui ont été prévus dans la documentation. Et si les investisseurs et les institutionnels ne waivent pas la documentation sans demander des coûts prohibitifs ou une révision de la marge, on altère la valeur économique de l'entreprise et aussi la capacité d'aller trouver un arbitrage pour d'autres investisseurs. Si je finance l'ensemble de ces aléas de ce BFR non normatif exceptionnel par du fonds de roulement, je perds ma capacité à faire mes capex, c'est un arbitrage aussi. Comment je vais pouvoir le trouver? Et puis, vous avez évoqué la RSE, vous avez évoqué les événements de pollution et d'environnement. Ça doit être supporté par l'actionnaire, parce qu'aucun des autres partenaires ne l'acceptera. Enfin, si on n'a pas, on peut aussi essayer de trouver aujourd'hui. Mais il y a un point qui sera très important pour l'adhésion des investisseurs, ce me semble, et des partenaires financiers. C'est la durée à laquelle vous considérez être encore dans le non-normatif, en sachant qu'un prévisionnel se fait à 18 mois, qu'il est en rupture, et que de toute façon, c'est cette volatilité qu'il va falloir répartir. Reste des subventions possibles par l'État. On a vu sur le problème de l'énergie. Il faudra voir aussi quels sont les choix politiques qui ont été faits pour qu'on puisse prendre en compte, dans une filière donnée, la possibilité de booster la rentabilité par des paris sur l'EBITDA normatif qu'il faut pour diriger.
Très bien, ben je vois qu'il retourne. Donc, nous avions décidé d'exposer pendant une heure ces différents points de vue.
toute petite remarque. En vous entendant tous les deux, ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, vous revenez sur la nécessité qu'il y a, en ces temps troublés, de renouer les liens entre l'entreprise et ses fournisseurs. Il faut être conscient d'une chose, c'est que s'il est une chose qui est difficile, c'est bien celle-là en France. Et qu'il y a une énorme différence, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Il se trouve que dans une autre existence, je préside l'Observatoire de la formation des prix et des marges et des de l'agroalimentaire. Donc je sais ce qu'il en est des relations entre l'agroalimentaire et la grande distribution. Je sais ce qu'il en est des relations entre l'industrie automobile et ses sous-traitants. Nous ne sommes pas un pays de confiance. Et malheureusement, à la différence de l'Allemagne, où on négocie une chose une fois par an, on se serre la main, on va boire une bière à la Bierstube et on se revoit un an plus tard, en France, l'encre de l'accord est à peine séchée qu'il peut se retrouver remis en cause.
En général, vous avez le problème du délai de paiement en France.
Alors, effectivement, autant en Allemagne, le délai de paiement, c'est quelque chose d'intangible sur lequel on ne discute pas, autant en France, vous le savez, en dehors de quelques secteurs où le législateur a été obligé d'intervenir. Nous sommes le seul pays où nous avons un tel appareil de texte sur les relations entre l'entreprise et ses fournisseurs et finalement où tous ces textes sont assez facilement contournés. Effectivement, le problème des délais de paiement en France, 90 jours fin de mois, ça fait 115, et en réalité, on le sait, dans un certain nombre de cas, ça peut être beaucoup plus long. C'était simplement une petite remarque.
C'est très bien. Mais justement, en guise de conclusion, Arthur, est-ce que vous voulez bien répondre rebondir sur le point de vue de Philippe Chalmin? Et après, nous répondrons à vos questions. Donc, je vous propose d'y réfléchir et d'adresser les questions au numéro de téléphone que vous trouverez sur vos écrans.
Oui, mais je pense que le point est très juste. Le point est très juste. On a culturellement une relation client-fournisseur qui est moins partenaire que dans d'autres environnements. Et ça, je vous suis pleinement. Alors, c'est amusant parce qu'il se trouve que j'ai moi-même été quelque temps en entreprise et négocié avec la grande distribution pour le compte d'un fournisseur, et tout particulièrement des sujets de délai de paiement. Et donc, je conviens que le sujet est complexe. Mais on a réussi à mettre en place des choses tout à fait transformantes de ce point de vue-là. Donc je crois que, si vous voulez, c'est ma conclusion, on est dans un environnement extrêmement complexe pour les entreprises, avec une forte instabilité, des tensions inflationnistes, des risques récessifs. Bon. L'entreprise ne doit pas renoncer à se transformer. Elle ne doit pas rester enfermée dans des représentations, dans des difficultés, certes, culturelles, locales, mais continuer son programme de transformation et sans doute l'accélérer. Je crois que c'est très important qu'elle continue d'accélérer sur ces sujets, même si, il y a des obstacles.
Alors moi, je trouve et je vois dans mes recherches de financement une modification de la philosophie en fonction, parce que là, chacune des entreprises, le client est lui-même touché par l'incidence que ça pourrait avoir. Et je vois, dans le secteur, par exemple, où il faut des engagements par signature qu'on ne trouve plus, une logique ou une écoute sur des crédits dans le type loi Macron qui sont une logique de dire c'est la filière entière, et on le voit bien avec les JV dont on parlait tout à l'heure, c'est la filière entière qui est concernée. Donc il y a, je pense, un changement de culture sur lequel il faut attirer les conséquences. Sur ces possibilités et sur cette écoute, en sachant que, en revanche, je pense que le client ne souhaite pas et ne veut pas prendre le risque d'être celui qui est par lequel le fournisseur reste soutenable. Donc, ne le ferons qu'à la connaissance aussi des partenaires financiers pour dire « je veux bien y aller, mais tout un chacun me suit ».
Très bien, donc nous avons la première question qui vous est adressée.
Tout le monde l'a vu ou il faut que
j'en
relise ?
Non, relisez-la.
Alors, Monsieur Chalmin, je suis dirigeant et malgré les difficultés à prévoir, je dois renseigner mon business plan sur le prix du gaz sur les 5 prochaines années. Bon, je veux bien. On peut toujours, si ça fait plaisir à vos auditeurs, pourquoi pas. En prenant l'hypothèse que les gazoducs russes ne sont pas rebranchés, je comprends de votre exposé qu'une hypothèse moyenne à 5 ans en Europe à 200 euros par mégawattheure est raisonnable avec un worst case à 300 euros en cas d'hiver froid. Non, là, je vous trouve un tout petit peu pessimiste. D'abord, parce qu'à 5 ans, vous ne savez absolument pas si Poutine sera toujours vivant, où nous en serons, etc. Et malgré tout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'arme du gaz, pour Poutine, c'est bien. Le problème, c'est que le gaz qu'il n'exporte pas, il ne peut pas le vendre, puisque autant du pétrole, vous pouvez toujours charger des pétroliers, autant sur du gaz, soit vous avez des tuyaux, et le tuyau vers la Chine, il est déjà saturé, soit vous avez du GNL, et les capacités de GNL de la Russie sont aussi extrêmement limitées. Donc, j'aurais tendance à dire, je pense, donc je spécule, ne l'oubliez pas, que mon hypothèse moyenne à 5 ans, je la situerai plutôt à 100 euros par mégawatt qu'à 200 euros. Avec une extrême instabilité, une des choses d'ailleurs dont on n'a pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés un peu imparfaits sur le gaz naturel. Le marché de référence, c'est ce qu'on appelle le TTF néerlandais, sur lequel... vous savez que quand vous êtes sur un marché à terme, vous devez payer un dépôt, vous avez des appels de marge. Les appels de marge peuvent représenter jusqu'à 60-70% de la valeur du contrat. Même des gens comme Trafigura, qui est probablement le premier négociant mondial en gaz naturel, s'en inquiètent en termes. Alors, eux, ce sont des gens qui ont en général un BFR de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. Hein. Donc, eux, ils n'ont pas trop de problèmes, mais ça commence à leur poser problème. Donc, on ne peut pas directement s'arbitrer, mais... Réponse directe à votre question, une très grande instabilité. On ne reviendra jamais à 10 euros. On ne reviendra pas à la période des années 2010. Et j'aurais tendance à penser que l'équilibre se trouvera, une fois tous nos problèmes géopolitiques réglés, quelque part même, voyez, je serais presque plus optimiste, entre 50 et 100 euros.
Arthur, je pense que la prochaine question est pour vous.
Oui, alors vous avez parlé de gagner en visibilité sur la demande en environnement B2C grâce à la digitalisation. Est-ce que vous avez l'expérience de tel projet? Quel est le délai pour réaliser un tel projet? Et quel est l'ordre de grandeur du prix à investir? Alors oui, PwC est extrêmement impliqué dans les nouvelles technologies parce que c'est absolument transformant. Et effectivement, c'est des projets que on a conduits, j'en ai conduit moi-même. Le délai est relativement court, parce qu'en réalité, on dispose déjà de toute une série de bases de données extrêmement profondes.
Ça dépend de la capacité de ton système d'information initial, non?
Alors, pas seulement. Hein, pas seulement. L'enjeu, il va être, en réalité, évidemment technologique, mais je crois que là, on est très armé, mais finalement, il va être dans le change. Parce qu'une fois qu'on a repensé les logarithmes de prévision de la demande, ensuite, il faut créer de la confiance dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut se dire, on a confiance dans le système, on avance sur ces bases-là, on réduit les stocks. Voilà, donc il y a un travail de communication. Mais le délai est de l'ordre de quelques semaines. Voilà. Et quant au prix, ça dépend réellement de la nature des produits, de la taille de l'organisation, du nombre de points de vente, etc. Mais c'est des choses qu'on peut tout à fait discuter après.
En termes, oui, d'investissement, on est en train de changer de paradigme avec ces hausses de taux d'intérêt. Alors, je me retourne vers Marie-Laure. Est-ce que, justement, le fait d'être dans un contexte plutôt récessif avec des perspectives de hausse de taux d'intérêt, ça ne va pas freiner les entreprises dans leur nécessité d'investir pour essayer de trouver des nouvelles solutions face à des prix, une facture énergétique qui augmente?
Alors, je pense que de toute façon, si c'est une entreprise, elle a un esprit entrepreneurial, donc elle a des hypothèses de croissance, donc elle croit en ce qu'elle fait. La logique, c'est qu'il faut qu'elle l'emmène, ses investisseurs, puisqu'elle va avoir des problèmes de liquidité et des problèmes d'arbitrage par les investisseurs. Toute la problématique de l'inflation qu'on va avoir sous-jacente dans les intérêts, c'est qu'il faut, on va avoir un problème de liquidité, il ne faut pas se cacher, à mon sens, dans le système, intermédiaire. Donc on va trouver, il y a de l'argent, cet argent va être cher, il va demander une rentabilité extrême, et donc il va demander la valeur même, le cœur du réacteur, c'est-à-dire la capacité de créer de la valeur année par année, sur ces bases-là, les bases qui vont être nécessaires, s'il faut prendre un capex d'investissement d'intelligence artificielle, pour pouvoir appréhender le mieux, le moindre frottement possible, c'est important. Si, il y a un point aussi dont on n'a pas parlé, c'est les conventions de cash pooling et les nécessités pour les groupes de prendre en compte dans l'utilisation de leur cash pooling une sorte de cash trap par zone pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à la création de valeur et du chiffre d'affaires sur le plan local. Pour répondre plus particulièrement sur la hausse des taux, ça va augmenter de toute façon le coût fixe dans l'intégration du point mort à calculer. Et ça, de façon, cette fois-ci, normative, à mon sens. T'es d'accord ?
Tout à fait.
Et puis, il y a une deuxième partie, c'est aller vers la transition écologique parce qu'on n'a pas d'autre choix en Europe pour se sortir de cette dépendance des énergies fossiles. Alors, les entreprises, quelle visibilité elles peuvent avoir pour se dire que la solution qui sera apportée, ce sera le recours à des énergies plus propres et, j'imagine, plus chères.
Pas forcément toujours plus chères. N'oubliez pas quand même qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela. Il y a un marché dont on n'a pas parlé, c'est le marché du CO2, c'est le marché du carbone. Il a littéralement décollé. Aujourd'hui, le carbone, enfin la tonne de CO2 doit coûter 70-80 euros. Alors évidemment, c'est encore un talon d'Achille européen, puisque nous sommes les seuls à mettre un tel prix au carbone, qui, objectivement, pour la planète, est nécessaire. Je rêve. Une des seules certitudes que j'ai, et que la COP, je crois que c'est 27, la COP 27 à Sharm el-Sheikh, en dehors de la trace carbone de toutes les ONG qui vont se rendre à Sharm el-Sheikh, n'aura à peu près aucun résultat. Je rêve qu'on arrive à dire, au niveau de la planète entière, eh bien, la tonne de carbone, c'est 100 dollars, par exemple, parce que là, ça commencerait à jouer. En Chine, c'est 2-3 dollars dans leur premier test qu'ils ont commencé à faire. Mais ça peut, la transition énergétique doit être intégrée pour les entreprises et pas uniquement pour faire du violon RSE, etc. et satisfaire les investisseurs. C'est une nécessité. De ce point de vue-là, la crise au moins va avoir l'avantage, comme je vous le disais, de passer peut-être le cap des renouvelables de première génération. C'est mignon, les éoliennes et le solaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est la biomasse, toute l'énergie à partir des déchets, qu'ils soient ménagers, agricoles, forestiers, etc. L'utilisation de l'hydrogène, le retour quand même aussi au nucléaire. Le mouvement d'électrification de nos économies est une évidence. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'aujourd'hui, on met quand même un peu la charrue avant les bœufs. C'est très, très mignon de dire on va abandonner en 2035 les moteurs thermiques. Encore faut-il savoir d'où viendra l'électricité. Le pays aujourd'hui qui a la flotte de véhicules électriques la plus importante au monde, c'est la Chine, mais l'électricité chinoise, à 60%, c'est du charbon. Donc il faut quand même être un petit peu raisonnable, mais je pense que, de toute façon, toutes les entreprises aujourd'hui ont à se faire leur petit bilan énergétique et surtout à se dire on ne va pas revenir au monde d'avant, on va dans un autre monde où, effectivement, notre objectif à tous, pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est qu'à la fin de ce siècle, eh bien, nous soyons sur des énergies a priori renouvelables et largement décarbonées.
Oui, mais vous avez évoqué demain. La problématique que vous avez évoquée, la politique d'investissement des investisseurs qui, dans leur charte, impose un certain nombre de règles, et notamment sur le plan de respect énergétique et pollution.
Ouais,
oui, mais la problématique, c'est que votre entreprise, l'entreprise qui cherche des financements, n'en trouve pas forcément au motif, justement, que ce n'est pas éligible.
J'aurais tendance à fustiger l'hypocrisie des banquiers. L'hypocrisie, excusez-moi, il y a peut-être des banquiers parmi vous, mais...
Excusez-moi, mais aussi des fonds.
Et
des institutionnels.
Vous voulez savoir quels sont les plus hypocrites ?
Non.
le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège. Le fonds souverain norvégien est financé essentiellement par la production de pétrole et de gaz norvégien. Au passage, d'ailleurs, les Norvégiens n'ont absolument... On avait suggéré aux Norvégiens de diminuer le prix du gaz à l'Europe pour soutenir l'effort européen sur l'Ukraine. Les Norvégiens ont dit, il n'en est pas question. Le fonds souverain norvégien, par contre, n'investit absolument pas à virer le tabac, la drogue, c'est normal, l'armement, et de plus en plus les investissements dans le domaine de l'énergie. Or, et Patrick Pouyanné, le patron de Total, est réaliste, on aura besoin quand même de pétrole, nous aurons besoin de gaz, parce qu'on ne va pas faire des transitions comme ça, d'un coup d'un seul. Je vois qu'il reste 30 secondes et qu'il y a une question qui sont mes prévisions d'inflation pour l'Europe US pour 23, 24, 25. Pour moi, nous sommes rentrés quand même dans un temps d'inflation important, long, probablement plus long en Europe qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis, certes, ils ont une sous-jacente qui est élevée, mais ils n'ont pas le facteur énergétique. Mais pour moi, l'inflation, c'est quand ça dépasse quand même 5%. En dessous, c'est des variations de prix. Nous sommes revenus dans une période inflationniste. Je vous rappelle simplement, chers amis, que dans les années 70, nous avons une situation de stagflation. Il nous a fallu pratiquement les années 80 pour en sortir.
Il y a un point sur lequel on peut revenir aussi, c'est sur la base, quand on veut taxer aujourd'hui les super-profits, par exemple, de Total, et qu'on regarde le prix de l'électricité, je crois, ou j'ai cru comprendre, qu'elle ne prenait pas en compte tous les capex nécessaires, notamment pour le maintien, ce prix d'électricité. Donc ça fait un double effet qui se coule, entre guillemets, pour Total, qui doit quand même maintenir ses raffineries, essayer de permettre justement le maintien en bonne forme, entre guillemets, de tout leur système de recherche pétrolifère, et d'un autre côté, être taxé au motif qu'ils sont pollueurs. Il y a un moment où...
Écoutez, je trouve qu'il y a, sur cette question des super-profits, énormément de démagogie, mais ne l'oubliez pas, nous sommes en France, et notre vieil héritage à la fois catholique, romain et républicain fait que l'argent, de toute façon, on n'en parle pas, et c'est sale. Donc, les super-profits Total, ils sont réalisés pratiquement pour l'essentiel en dehors de France, parce que oui, c'est vrai, Total est un producteur de gaz et de pétrole, il est logique qu'il fasse des super-profits aujourd'hui. S'ils avaient fait des super-profits, d'ailleurs, sur le raffinage, il n'aurait pas le gros des majors pétroliers a vendu ses activités de raffinage. Parce que sur les 20 dernières années, c'était franchement pas rentable. Alors aujourd'hui, effectivement, jamais les marges de raffinage, notamment sur le diesel, n'ont été aussi importantes. Ben oui, mais nous sommes dans un monde d'instabilité. Si, par exemple, EDF aujourd'hui a des problèmes parce qu'ils n'ont pas pu renouveler leur CAPEX... Tout simplement parce qu'on a maintenu pendant trop longtemps, en France en particulier, des prix de l'électricité insuffisamment élevés, au-delà de toute la polémique idéologique autour du nucléaire. Vous avouerez quand même que nous sommes dans un merveilleux pays où l'on ferme Fessenheim et où, à 100 km de là, on relance une centrale charbon.
Très bien, mais écoutez, je pense que nous avons fait... Il y a peut-être des questions, oui, dans la salle. Ah ben bah super, très bien, peut-être un micro.
Vous avez évoqué le fait que l'industrie américaine et l'industrie européenne supportent des coûts énergétiques très différents en défaveur de l'industrie européenne. Est-ce que vous ne craignez pas que cette situation puisse conduire à des tensions commerciales et éventuellement politiques entre l'Europe et les États-Unis?
C'est le cas depuis longtemps, hein. Les différentiels, même au temps heureux où le gaz russe coulait à flot, le gaz en Europe était plus cher qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on se baladait sur le prix du gaz entre 2 et 4 dollars le million de BTU. Vous multipliez par 6, ça faisait une vingtaine de dollars et le baril équivalent au pétrole. Et il y a eu effectivement des relocalisations industrielles dans les zones de production de gaz de schiste, que ce soit dans le domaine de la production de toutes les industries finalement énergétivores. Donc cela a joué de manière tout à fait incontestable. L'avantage ne joue pas sur le pétrole, puisque là, on est sur un véritable prix mondial. Et les États-Unis, d'ailleurs, sont confrontés aux mêmes tensions sur le carburant, parce que l'activité de raffinage avait été tellement médiocre que... Alors, je cite de mémoire, donc je ne vous garantis pas, mais je crois que ces dernières années, on a fermé à l'échelle de la planète l'équivalent de 3,5 millions de barils jour de capacité de raffinage. Marché mondial du pétrole, c'est 100 millions de barils jour, à peu près. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, aujourd'hui, que nous ayons des goulots d'étranglement qui se soient mis en place, c'est assez évident. La preuve, d'ailleurs, c'est que l'activité de raffinage, c'est au fond une activité de trading. Vous achetez du brut, vous vendez des produits pétroliers, et de manière intéressante, ce sont les grandes sociétés de trading, alors là, qui font actuellement de sacrés profits, mais eux, en dehors de Glencore, ils ne sont pas cotés, mais les Trafigura, les Vitol, les Gunvor, etc., qui aujourd'hui, qui font cette année des résultats extraordinaires, parce que justement, plus les prix sont instables, plus il y a de volatilité, plus ces gens-là sont capables de bénéficier des opportunités. Mais pour répondre à votre question, les États-Unis ont incontestablement, de ce point de vue-là, un avantage comparatif.
Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre éclairage à tous les trois. Merci pour votre attention et puis à très bientôt.